Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Radio Fringale, ce soir live, mais pas live Pro Cycling Manager. Non, 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 la torne reste tranquillement dans les tables. Ce soir, petit live pour faire le point sur les deux premières grandes courses par étapes de la saison qui sont parties cette semaine. Je parle bien évidemment de Paris-Nice et de Tirreno. On va faire un débrief à mi-parcours. Alors, à mi-parcours dans l'idée, hein, parce qu'on va le voir, peut-être que Paris-Nice, on est peut-être déjà pas loin de la fin du parcours, qui sait? Voilà, mais tout ça, on va en parler tous ensemble. Et qui, pour m'accompagner ce soir, qui de mieux que celui qui vise les courses par étapes, celui notamment qui est professeur de français dans l'Institut Fringale Cyclisme, c'est Titien. Salut Titien, comment vas-tu?
Salut Théo, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien. Super, écoute, des premières étapes voilà, assez intéressantes, des courses actuelles qui sont encore très très ouvertes jusqu'à la fin, si ça peut aller à la fin effectivement. Donc pas mal d'intérêt là sur cette fin de semaine pour ce qui se passe en vélo.
On a déjà eu du beau spectacle. Alors, Titien, je te propose, pour commencer, déjà, salut Stani, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à nous dire salut Loulou, comment vas-tu? N'hésitez pas à nous dire dans le live si le son est bon, si c'est équilibré, si on entend bien les micros, etc., etc. Peut-être, Titien, avant de commencer, la semaine dernière, il y a eu une petite course, je ne sais pas si tu la connais, c'est un petit truc rien de bien méchant là, qui se passe dans des chemins de vigne au fin fond de la Toscane, tu sais, c'est souvent l'occasion pour un grand coureur en début de saison de venir taper du poing sur la table. On a eu les Strade Bianche et...
Le sixième monument, c'est ça?
Oui, c'est ça, on peut le dire. Hein. Bah non, mais en fait, on est tous d'accord à Radio Fringale pour dire que c'est le sixième monument, mais il y a un mec qui fait de la résistance, on n'a pas envie de le froisser, donc voilà, quand il est là, on dit rien, quoi. On est là, ouais, t'as raison, tonton, et tout. Vous savez, c'est un peu ce vieil oncle alcoolique au bout de la table, au repas, là. Vous n'avez pas envie de rentrer dans un débat avec lui,
Ah,
alors...
l'oncle alcoolique, je pense qu'il va apprécier.
C'est sûr. Non, on rigole, Adri, bien évidemment. En tout cas, il y a eu les Strade Bianche, tout à fait. Et on l'avait dit, alors j'ai vu des gens nous dire, vous l'aviez prédit et tout. Bien sûr qu'on prend hein, le fait d'être des gens qui prédisent l'avenir, mais bon, prédire que Tadej Pogacar allait défoncer tout le monde, c'est quand même pas la prédiction la plus dure qu'on ait eu à faire, Titien. D'ailleurs, on s'est pas trompé et c'est assez rare pour le souligner.
Ouais, bah en fait, je suis assez partagé pour qualifier ce qui s'est passé ce samedi dernier sur les routes des Strade Bianche. En fait, à la fois, c'est un truc ahurissant. Voilà, je pense qu'on a vu plein de graphiques sortir sur ces derniers jours sur un peu à quel point c'est un exploit comparable dans les exploits en solitaire. On a parlé nous-mêmes des exploits de Bernard Hinault, d'Eddy Merckx, tout ça. Donc, c'est un exploit monumental. Et pour autant, bah, ça me surprend qu'à moitié, en fait. Donc, en fait, j'ai du mal à me dire que je viens de voir un truc hallucinant, tout simplement parce que, ouais, je sais pas si toi tu l'as senti comme ça, mais ça m'a l'air dans la logique des choses, à la fois par rapport au niveau qu'a Tadej Pogacar, et puis à la fois par rapport au niveau de ses adversaires, qui étaient des très très bons coureurs. Mais c'est pas des numéros 1, ou en tout cas les numéros 1 parmi les 7-8 coureurs aujourd'hui qui peuvent essayer de rivaliser avec Pogacar, et il n'y avait que lui qui était présent. Donc je ne sais pas, je suis assez partagé, je sais pas ce que c'est ton ressenti, toi. Est-ce qu'on a vécu un truc absolument extraordinaire, et peut-être qu'on le ressent pas assez, ou alors tout simplement, est-ce que simplement c'est ouais, voilà, c'était normal que Tadej Pogacar soit trois jambes au-dessus des autres coureurs. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Moi, quand même, ce qui m'a étonné, le voir gagner, le voir attaquer en solitaire et tout, non, on sait qu'il en est capable, tout ça. Ce que j'ai trouvé quand même très violent dans sa victoire, c'est le temps. Le temps qu'il a mis en fait au gars quand il a attaqué, à quel point il a creusé rapidement. Parce que il finit à 3 minutes et quelques, ou peut-être un peu moins de 3 minutes, je sais plus, il y a un moment, il y a presque pas loin de 4 minutes, enfin, ou
Ouais,
3,45.
il y a...
Mais il leur met
Ouais, c'est
3
ça.
minutes en un rien de temps, en fait. C'est ça qui est fou. Moi, c'est vraiment ça qui m'a. Pas le fait qu'il ait pas de défaillance et tout, parce que bon, au début, ça a un peu dit dans les commentaires, enfin, sur les commentaires des commentateurs en live, oh, est-ce qu'il va pas avoir une défaillance, machin? Bon, moi, je pense que Pogacar, 80 bornes de l'arrivée, il les a larges dans les pattes. C'est une course qu'il maîtrise. La dernière fois, il l'a fait à 50 bornes de l'arrivée parce que Santa Maria était positionné un peu plus proche de l'arrivée. Voilà. Par contre, en effet, ce que j'ai trouvé, j'ai pas souvenir que dans la dernière victoire, alors il avait creusé, mais il me semble qu'on était plus sur un écart de 2 minutes que de 3. Là, je dois
Ouais,
avouer.
même pas, hein.
Même pas, ouais.
40 secondes à l'arrivée.
Ok, là je dois avouer que ce qui m'a vraiment étonné dans sa victoire, ou même ce qui fait que cette victoire est aussi dingue, c'est vraiment l'écart. la vitesse avec laquelle il a creusé. C'est-à-dire que, comme je le dis, qui décroche tout le monde dans cette montée, qui est difficile dans ce secteur, parce qu'il n'y a pas qu'une montée, mais qui est difficile et qui est bien adapté pour lui. Il l'a visé, il avait dit le matin que c'était son plan. Enfin voilà, on s'en doutait. Et même, comme tu peux le dire, au vu de la concurrence, qui mine de rien reste quand même une concurrence avec de sacrés coureurs. Hein. Il y avait quand même Tom Pidcock, pardon, qui était là. Après, il y avait des super coureurs aussi qui n'ont peut-être pas performé au niveau où on les attendait. Je pense à des Attila Valter, par exemple, qu'on pouvait attendre bien mieux que ça, qui n'était pas là. Et finalement, on a vu d'autres gars derrière. Et quand on voit finalement l'arrivée, on se dit, ah, c'est peut-être pas les mecs les plus costauds qui sont derrière. Enfin, Van Gils, c'est pas forcément le gars qu'on attendait troisième. J'ai oublié le nom du deuxième, mais pareil, c'est pas forcément.
Keynes.
Ouais, voilà, c'est pas le coureur qu'on aurait mis forcément ici de but en blanc, genre ah ouais, il va finir là, bien qu'il nous avait montré sur les semaines précédentes qu'il était quand même là et qu'il était en forme. Tom Skuins, que d'ailleurs j'ai enlevé de mon équipe pour mettre Quinn Simons, hein, RIP mes stats sur notre petite appli Cycling Fantasy, bref, passons. Voilà, moi c'est surtout cet écart en fait, et qui fait pour moi de la perf de Pogacar, au-delà de son échappée, une perf de dingue. Franchement, en gros, je crois qu'il y a deux, à la limite à la sortie de Santa Maria, déjà presque 2 minutes, quoi. Et comme l'a dit Pidcock à la fin, j'ai trouvé d'ailleurs ça très intéressant, puisqu'il y avait des articles derrière sur est-ce que c'est une perf de ouf, tout ça. Il y a eu un bel article d'Eurosport, notamment, qui est sorti en disant que peut-être sans le vouloir, Pidcock, il avait un peu mis le feu aux poudres aussi et relancé les fameuses théories qu'on a après chaque exploit cycliste, dopé, pas dopé, dopage mécanique, pas dopage mécanique, etc., etc. Pidcock, quand il nous sort, moi j'avais l'impression d'être dans le groupe Eto derrière, alors que les mecs sont tous à fond et que c'est quand même des coureurs de qualité. La performance de Pogacar, pour moi, elle est monstrueuse. Et franchement, comme je l'avais un peu dit dans notre groupe là qu'on a, je pense que franchement, même un Mathieu Van Der Poel face à ce Pogacar-là, d'ailleurs, il l'a dit Van Der Poel après la course, qu'il avait peur du coup de rencontrer Tadej Pogacar en course. Il l'a dit avec humour, ils se sont charriés un peu sur les réseaux, mais voilà. Je pense que même un Mathieu Van Der Poel au top de sa forme, il serait resté collé comme il a été resté collé sur, comme il est resté collé sur la fin du Tour des Flandres la dernière fois. Non, Pogacar, il était énorme.
Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi, il était énorme. Après, faut toujours faire attention un peu au superlatif. Enfin, mine de rien, en prenant un résultat abrupt tel qu'il est, ça me choque pas de voir Tadej Pogacar mettre 2 minutes 30, 2 minutes 40 à Skuins et Van Gils, qui sont des très bons coureurs. Voilà, des mecs qui montent sur ce type de course. Mais enfin, en tout cas, ça me semble pas des écarts abyssaux par rapport à ce type de coureur. Finalement, quand on regarde, tu vois, par exemple, tu vois Mathieu Van Der Poel, quand il est champion du monde, le mec, il attaque à 20 km de l'arrivée, il finit avec quand même une 45 sur Van Aert, Pogacar et Pedersen. Le quatrième, derrière, il est à 4 minutes. Le cinquième, il est à 4 minutes. Mmh. Donc, tu vois, enfin, c'est pas la première fois qu'on voit une perf comme ça. C'est pour ça que je préfère rester prudent. C'est, tu vois, tout de suite, si Vingegaard, Van Der Poel et Van Aert participent à la course, t'as Van Der Poel qui finit à 1 minute, Van Aert à 1 minute 30 et Vingegaard à 2 minutes. Bah, tout de suite, ça met des gens entre cette zone de. Enfin, et on se dit moins que, voilà, que Pogacar, il est très très fort, on le sait, mais on se dit moins que c'est incroyable. Donc. Je sais pas. Toujours est-il que ça m'étonne pas qu'il ait gagné, ça m'étonne pas qu'il ait écrasé la course. Après, voilà, ça reste un exploit incroyable. De toute façon, les Strade Bianche, pour moi, c'est peut-être la seule course de l'année d'un jour qui est sûre à 100% de sacrer le plus fort, parce que c'est tellement une course dure et difficile. Donc, je préfère rester prudent en évitant trop des superlatifs. Mais dans tous les cas, c'est clair que bon, bah. Voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de course de préparation. T'as le mec qui arrive, il est déboule, il n'a pas couru avant et mis une pilule aux autres. Donc, c'est clair qu'en tout cas, ça prouve toujours en ce début de saison qu'il y a 4-5 mecs qui ont un écart monumental avec le reste de la troupe, qui est d'ailleurs assez, assez homogène, je trouve.
On nous dit dans le chat que derrière, ils ont roulé comme des cadets. C'est vrai qu'ils ont eu un peu de mal à s'organiser, mais en même temps, je pense que l'écart était fait. Ils savaient qu'ils n'arriveraient pas à rentrer et ils étaient un peu à se dire. Enfin, finalement, il y a la deuxième place à aller jouer. Je pense que les mecs derrière, ils ont gagné comme si, enfin, ils ont couru comme s'ils allaient essayer de gagner pour les places derrière Tadej Pogacar. Donc, le fait qu'il n'y ait pas eu de poursuite, enfin, je sais pas ce que tu veux dire, Mathieu, en disant qu'ils ont roulé comme des cadets. Je sais pas si organiser la poursuite ça aurait changé grand chose. Moi, je pense pas. Je sais pas ce que t'en penses, Titien, mais à mon avis, Pogacar, c'était mort, quoi.
Non, puisque de toute façon, ils sont tous arrivés les uns après les autres et complètement épuisés. Donc, Ils ont peut-être un petit peu traîné, mais en fait, tout simplement, ils ne sont pas organisés tout de suite parce qu'au sommet du Sainte-Marie, là où Pogacar attaque, les mecs, ils ont essayé de suivre à distance et eux, contrairement à Pogacar, ils ont vraiment besoin de récupérer et de prendre du temps pour rouloter, pour pouvoir relancer derrière. Tandis que lui, c'est ça qui fait la vraie différence pour moi entre ces mecs et le reste de la troupe, c'est qu'un Pogacar, lui, quand il attaque au sommet de la bosse, là, il continue sur son rythme. Voilà, donc ça, c'est. Enfin, voilà, ils ont vraiment une. C'est ces mecs-là, les Pogacar, les Van Der Poel, ils ont vraiment un truc en plus qui leur permet, en termes d'endurance et de résistance, de poursuivre un effort et de créer des écarts par rapport aux autres. Donc, écoute, de toute façon, bah voilà, il y a vite Milan-San Remo qui va arriver, il y a vite d'autres courses où Pogacar, cette fois-ci, va être confronté à une plus grosse adversité. Voilà, d'autres mecs qu'on a vu faire des mêmes numéros. Donc, on saura bien s'il est encore une tête, s'il a encore pris du galon cette saison. Ou si tout simplement, voilà, il y avait quand même un. Dès qu'en fait, il y a un de ces mecs qui est tout seul sur une course, j'ai l'impression que ce soit Pogacar, Van Der Poel, Vingegaard, voilà, bah, tout de suite, il est quasi sûr de gagner la course, quoi.
On nous dit aussi, par Wikiloui, de toute façon, VDP, il n'aurait jamais laissé sortir Pogacar. Moi, je pense que VDP, sur un secteur comme ça, au bout d'un moment, c'est long et il se serait dit, en fait, là, il faut que je lâche l'affaire parce que je vais exploser en vol. Je pense que l'Estrade, un peu comme j'avais pu le dire sur l'histoire du Tour des Flandres, et pourtant, dans les montées des Tours des Flandres, on a moins de distance, c'est moins long. Je pense qu'elle est parfaite pour Pogacar, l'Estrade Bianchi. Je pense que celle-là, s'il veut la gagner 10 fois, il la gagnera 10 fois sans problème, quoi. Il n'y a pas de souci. Juste pour clôturer, Titien, sur ce que j'avais à dire par rapport à ce que tu disais sur Van Der Poel au dernier championnat du monde, qui met une 40 à Van Aert et tout team. Là, comme je disais, l'écart, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il est fait en 5 bornes, quoi. 5, 6, 7 bornes, c'est vraiment ça. C'est même pas une attaque de 20 km où à la fin derrière t'as 3 gars qui se regardent un peu parce que ça va jouer au sprint, parce qu'ils savent que c'est vraiment genre en point de temps, enfin, même si c'est difficile. Il est capable de créer un écart que moi je trouve énorme. Bien que, en effet, ouais. On n'ait peut-être pas les gros noms derrière. Mais je pense aussi, si tu regardes vraiment l'arrivée d'Estrade, les mecs qu'on avait un peu mis dans nos tops et tout, ils n'ont pas forcément performé comme on l'attendait. Et le fait qu'on ait Skuins et Van Gils aux places 2 et 3, c'est plus une sous-performance des autres. Et, enfin, tu vois, finalement, même des mecs comme Kuss, ouais. On se demandait, est-ce qu'un gars comme Kuss, qui a montré quand même sur la Vuelta l'année dernière qu'il était costaud, qui vient du VTT, est-ce qu'il pourrait pas, d'ailleurs il a un peu essayé Kuss, mais c'est pareil, il s'est arrêté, il s'est dit, mais oula, je peux pas, tu vois, genre jouer.
Il a même abandonné une trentaine de kilomètres après, je pense qu'il s'est dit, bon, c'est pas pour moi ce genre de course, non, mais oui, enfin en fait, il y a un monde d'écart quand même. Donc,
c'est clair. Voire bah, plusieurs.
Voilà, aujourd'hui, Pogacar sur des classiques un peu difficiles pour moi. Ouais, y a vraiment, pour moi, il n'y a qu'un Van Der Poel des très très grands jours pour aller chatouiller les Slovènes, mais il est carrément au-dessus. Quoi, voilà.
Et rapide comme ça, Titien, parce qu'on en parlera, je pense, en long, en large, en travers dans la preview de Milan-San Remo. Mais Tadej Pogacar sur Milan-San Remo. Il attaque avant! Il attaque pas avant.
Ouais. la preview arrivera sûrement dans pas longtemps, donc on en parlera à ce moment-là.
T'as pas envie de nous donner comme
préparer psychologiquement. Ouais, bah écoute, peut-être que depuis des années, on verra une petite attaque de la Chypressa. Écoute, pourquoi pas?
Ok.
Pourquoi pas?
Martinez Top 8, ouais, c'est clair, on peut souligner les belles performances des Français, même de Cosnefroy. Hein. Il a entendu, Benoît Cosnefroy, que vous étiez moqué quand j'ai dit qu'il allait gagner au sommet du mur de Huy. Hein. Il a dit, oh là, ouais, non, ça se moque un peu vrai. Trop de moi là.
Alors, je pense qu'il gagnera quand même pas au sommet du mur de Huy, mais par contre, non, hyper surpris de la course de, enfin, hyper agréablement surpris de la course de Cosnefroy qui a un peu raté sa saison l'année dernière, on peut le dire, et ben voilà, qui sur une, en plus, je trouvais qu'il avait pas mal de difficultés quand la course devenait dure, etc. Et ben là, voilà, il nous prouve que finalement, il peut être là. Donc non, j'ai été hyper content de Cosnefroy. Et puis Lenny Martinez, bah écoute, Marc Madio, il a intérêt à négocier gros avec les sponsors, parce que course après course, à mon avis, il est en train de faire monter sa valeur sur le marché. Et on sait qu'il est en fin de contrat à la fin de l'année avec, ouais, la Groupama. Donc bon courage à Marc Madio pour arriver à re-signer son coureur. Il y a déjà pas mal de rumeurs autour de ça.
À Bahreïn, ouais. Ouais. À voir, 2 millions et quelques, là, qui pourrait peut-être... le faire, ouais, se décider.
En même temps, vu ce qu'il fait à 20 ans, tu comprends, oui, que les autres équipes y soient allées. Donc, non, mais je pense que bon courage à la Groupama pour arriver à retenir Lenny Martinez.
Puis voilà, hein, Pidcock qui nous fait une belle quatrième place. Un peu en dedans, Pidcock, hein, sur cette course. Je pense que pareil, ouais, il n'avait peut-être pas les jambes de suivre au bon moment. Je reste aussi persuadé que l'année dernière, il la gagne parce qu'il joue bien intelligemment le coup et que derrière, pour le coup, ça court vraiment comme des cadets, notamment chez les Jumbo, entre Benoît et Valter. Mais cette année, ouais, je pense qu'il est à sa place au vu de la forme qu'il avait l'air d'avoir. On sait que son objectif, c'est de regagner les Jeux Olympiques. Donc voilà. Voilà, voilà. On s'arrête là-dessus sur l'Estrade. On passe à une petite course qui se passe actuellement en Italie. Je vois que vous êtes déjà une petite trentaine sur le live, donc on est bien content de vous voir si nombreuses, nombreuses. Surtout, n'hésitez pas à interagir avec nous dans le chat. Pareil, si vous n'êtes pas encore abonné ou autre, n'hésitez pas à vous abonner. On n'est pas loin des 1900 là. On aimerait bien se fixer les 2000 pour Paris-Roubaix finalement. Au début, on avait dit pour le Giro, puis là, quand on voit comme ça a bien fonctionné cette semaine, là, on a presque pris 70 abonnés. On se dit, allez, pourquoi pas? Ça nous mettra un petit challenge et tout. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis il y a Simon, Simaïk là, qui nous a fait un coucou dans le chat, qui est du coup un des rédacteurs de Radio Fringale. N'hésitez pas à lui faire un coucou, puis aller voir les articles qui sont faits par la rédac, Matt et Simon, qui nous font du super bon contenu. Donc voilà, on nous dit surpris par le niveau de Skuns. Van Giel, ça fait un moment qu'on l'attend. Bah, Skuns, il a commencé à bien performer fin d'année dernière, puis confirme finalement, Titien. Il fait un bon début de saison, si on l'avait vu sur les premières Flandriennes, bien à son aise.
Ouais, tout à fait, non, mais c'est un très bon coureur, c'est un coureur expérimenté. Ça fait plaisir aussi, tu vois, je trouve en ces derniers temps, où maintenant c'est des mecs de 20-21 ans qui vont dominer un peu toutes les courses, qu'il y a des mecs voilà, à 32 ans qui arrivent encore à élever leur niveau et arriver à aller chercher des perfs comme ça. Enfin, ça montre que voilà, malgré tout, le cyclisme, ça reste un sport où on peut évoluer également sur le tard et qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on n'a pas forcément percé à 21 ans que déjà notre carrière. Enfin, tu vois, il y a des mecs aujourd'hui, à 22-23 ans, quand ils n'y arrivent pas, on est en train de se dire, bon, bah, la carrière est déjà foutue. Non, non, enfin, voilà, une carrière de vélo, c'est long. Et voilà, ça fait plaisir pour Tom Skuins, qui est un peu enduro mal, souvent un mec qui est dans les échappées, qui est pas mal sur les classiques, bah voilà, d'aller chercher. De toute façon, c'était le meilleur résultat qu'il pouvait aller chercher sur cette course. Donc, ça récompense son excellent début de saison.
Tout à fait. Alors, Tirreno Adriatico. La preview que vous aviez fait avec les copains commençait par un petit troll où on disait que tu disais que Roy d'Ayuso allait déboîter Vingegaard. Derrière ça, il y avait un Vingegaard à de fortes chances de sortir avec de l'avance sur tous les autres favoris après ce premier chrono de 10 bornes. Finalement, Jean Ayuso, comme on l'appelle dans le milieu, l'Ayuso, il a mis une bonne vingtaine de secondes à l'ami Vingegaard. Il vient remporter ce chrono au nez à la barbe de Filippo Ganna et de Jonathan Milan, qui est quand même un petit peu plus loin derrière. Très belle surprise de le voir s'imposer, de le voir prendre du temps, et on se prend à rêver d'une vraie bataille entre Vingegaard et lui pour le classement général de Tirreno Adriatico.
Ah bah clairement, alors je m'attendais à ce que Juan Ayuso il limite les dégâts, on va dire, hein, sur ce contre-la-montre, mais là c'est un truc de fou. Hein. Pour tout te dire, Ayuso, en termes de pas de prologue, hein, mais vraiment de contre-la-montre, l'année dernière il a disputé 3 contre-la-montre World Tour, celui du Tour de Romandie qu'il remporte, celui du Tour de Suisse qu'il remporte, et ensuite sur la Vuelta il fait 7e du contre-la-montre, et puis cette année, bah, premier chrono World Tour, il le remporte, donc sur ses 4 derniers chrono World Tour, il en remporte 3 quand même, hein, donc en fait c'est juste que je pense que l'année dernière, enfin tu vois, faut pas, je crois, alors si peut-être que je dis une bêtise, vous me direz dans le chat, mais je crois qu'Ayuso il détient le record de, c'est le plus jeune coureur de l'histoire sur un podium de Grand Tour, puisqu'il a fait podium de la Volta à 19 ans, et je crois que ça n'avait pas été fait avant. Donc déjà, c'était un crack, là, ce qu'il nous a fait en 2022. L'année dernière, il a été gêné par... faut pas oublier qu'il est arrivé tard, qu'il a repris au Tour de Romandie, qu'il a été gêné, il était blessé, il est revenu très tard dans la saison, et en fait, malgré tout ça, il a réussi quand même à aller chercher des bonnes perfs, mais je pense qu'il avait un petit peu déçu, notamment sur la Volta, même s'il fait quatrième. Parce que voilà, certains l'attendaient un peu plus beau. Faut pas oublier qu'il a 21 ans et que voilà, peut-être cette saison l'année dernière, c'était un petit peu une saison tronquée et peut-être qu'on n'a pas pris la mesure du bonhomme que c'est. Mais là, depuis le début de saison, il a l'air cette fois-ci tout a l'air de bien rouler pour lui et il a l'air tout simplement hyper hyper impressionnant. Je lui ai découvert des vraies qualités de puncher. Il va même au sprint, etc. Et puis là, il va chercher. Enfin, il va dominer. Moi, je suis quand même assez étonné. Hein. Il met des écarts assez monstrueux, assez abyssaux sur un chrono de 10 km. Bah, de Filippo Ganna, même si c'est peut-être pas un Ganna encore à 100%, mais derrière, des Milan, des Vernon, c'est quand même des spécialistes des prologues, etc. Ils sont repoussés à plus de 10 secondes. Vingegaard, qui est quand même à 22 secondes, c'est énorme comme écart. Hein. Alors, c'est qu'une entrée en matière de 10 km, mais Mais alors, je dis pas, je ne le pense toujours pas que Juan Ayuso va gagner ce Tirreno-Adriatico. Mais en tout cas, je préfère voir ce scénario où, en plus, Vingegaard étant un coureur offensif, j'avais peur que l'étape de demain là, soit un peu tronquée pour laisser uniquement place à celle de samedi. Bah voilà, Vingegaard, il n'a pas le choix. Il va devoir se bouger. Et en tout cas, il y a deux intérêts. C'est qu'à mon avis, les deux prochaines étapes de montagne, les deux, ça devrait bouger dès demain. Surtout que demain, il y a une descente très technique après le dernier col. Et puis ensuite, ça remonte pendant une dizaine de kilomètres. Donc, il y a de quoi faire pour quelqu'un qui veut lancer la course de loin. Et puis samedi, enfin, ça devrait être une belle course. Et j'ai hâte de voir, en tout cas, jusqu'à quel point Juan Ayuso peut résister à Jonas Vingegaard. Mais enfin, on se souvient que Vingegaard, l'an dernier, il était derrière Pogacar sur Paris-Nice et derrière Godu. Donc, on n'est pas. Voilà, j'arrive pas à me dire que Ayuso peut battre Vingegaard, mais en tout cas, il a montré qu'il était en très grande condition d'aller gagner un chrono plat comme ça. Et voilà, petite pression sur le Danois maintenant. Et je pense que ça enverrait un message très fort si c'était un des équipiers de Pogacar sur le prochain Tour de France qui arrivait à rivaliser avec le Danois sur ces 3 jours. Je sais pas comment tu vois la fin de course, toi.
Pour le revenir sur le chrono, c'est vrai qu'on sait qu'Ayuso il roule bien. Mais là, quand même, c'était 10 km tout plat, c'est ce genre de
Ouais,
chrono où
incroyable, hein.
tu te dis ok, les coureurs de grand tour, sur grand tour, ils font les chronos à fond, ils sont en pic de forme, ils peuvent rivaliser avec les spécialistes de la discipline, tout ça, tout ça. Là, franchement, Ayuso a fait une sacrée performance, hein, putain, elle n'est pas à minimiser, très costaud. Et d'ailleurs, on verra que, en règle générale, UAE, là, sur les chronos, sur ce début de saison, c'est pas trop mal. Hein, on en parlera sur Paris-Nice aussi. Écoute, derrière, on va voir en montagne. Je me dis que, tu sais, en vrai, j'y pense vraiment. On va le voir si cette théorie pourrait être confirmée cette année. Mais tu sais, d'imaginer que peut-être Vingegaard, dans sa planif, dans sa préparation, on avait vu que c'est un peu la seule course qu'il avait foirée l'an passé, Paris-Nice. On est à peu près au même niveau dans la saison. Il fait à peu près le même début de saison que l'an passé où il éclate tout le monde sur Au Grand Camino et puis il arrive derrière. Est-ce que là, voilà, dans sa prépa, c'est pas une semaine où il est un peu moins bien pour X ou Y raison? Et du coup, franchement, je me dis que, enfin, finalement, tu vois, si Ayuso gagne, je serais pas ultra étonné en me disant que voilà, Vingegaard nous a déjà montré l'année dernière qu'il pouvait être défaillant sur certaines courses par étapes, notamment sur Paris-Nice à ce moment-là de la saison. Mais par contre, je suis content parce qu'à mon avis, ça augure une très belle bataille pour ce week-end. Et on est toujours ravis en fait de voir des courses où il y a de la bagarre. CF, Palestra des Bianchettes samedi dernier, quoi. Voilà. Donc
Ouais, bah écoute, bon après, j'espère qu'on se dise pas ça maintenant et que demain, il va attaquer à 5 km du col et puis à l'arrivée, ça fera 2 minutes pour tout le monde, c'est aussi une possibilité, hein.
Non
Donc
mais
non, mais
Ayuso, il est fort.
effectivement.
Il est fort depuis ce début de saison. Tu vois, même sur les ce qu'il a fait avant, les classiques de prépa Faune Ardèche là et tout, et Drôme, on sent qu'il est bien. Tu vois, il est bien, on sent qu'il est bien dans sa tête aussi, comme tu
Ouais,
l'as dit.
je suis d'accord.
Dans les sprints, il a été ultra puissant là, quand il bat Grégoire. Enfin voilà, Grégoire, on sait qu'au sprint, quand même, il a du punch, il va bien et tout. Enfin, et ouais, on le sent libéré. Et de toute façon, même pour cet été, ça peut être intéressant de qu'il soit au meilleur niveau possible, aussi pour mettre dans la tête des UAE, que battre Vingegaard cet été, ça passera aussi peut-être avec des coureurs de grand talent autour de Pogacar, pour venir semer le doute, pour venir jouer la stratégie d'équipe, etc., etc. Donc, quitte à ce que si Ayuso est au niveau de Pogacar, voire ou un cran en dessous, mais qu'il a pris du temps, Pogacar se mette à son service sur le Tour de France, qui pourrait être énorme. Enfin bref, tu vois. Mais en tout cas, ça passera par des grosses perfs d'Ayuso avant et venir jouer. Jouer front contre front avec Vingegaard sur ce Tirreno, ça peut être une étape pour cette année, quoi.
Oui, et puis tout simplement, en fait, enfin, chaque année, on voit que, enfin, quand Pogacar il bat Roglic sur le Tour de France et qu'en 2021 il confirme, tout le monde se dit bon bah Pogacar il est parti pour gagner 4-5 Tours de France, et en fait on se rend compte que voilà, personne s'attendait en 2021 à ce que Vingegaard il débarque à ce niveau-là et qu'en 2022 ça y est, ça devienne le coureur référence de Grand Tour.
C'est
Je pense que
clair.
si en 2020 on s'était dit ça, enfin tout le monde aurait un peu rigolé. Donc voilà, Ayuso chez les jeunes, il gagnait déjà tout. Il est arrivé sur à 19 ans, il fait podium d'un grand tour, ce qui est quand même déjà c'est incroyable comme performance, hein. Enfin, comme nous le dit Louis Laval, c'est le deuxième plus jeune coureur de l'histoire à faire un podium. L'année dernière, malgré une blessure, il s'en sort avec une belle saison quand même. Ça se trouve, Ayuso, c'est juste un crack de chez crack. À 21 ans, il va commencer vraiment après avoir fait deux grands tours, à prendre de la caisse cette année et tout simplement à libérer tout son potentiel. Et peut-être qu'il va jouer dans la même cour que Pogacar, Vingegaard et devenir un fantastique aussi. Donc non, voilà, il y a pas mal de, je pense que voilà, il y a pas mal d'enseignements qui vont arriver là de cette fin de semaine. Mais toujours est-il que voilà, en fait, Juan Ayuso, on doute pas de ses qualités de grimpeur. Maintenant, s'il montre qu'il est aussi fort que ça dans les chronos, c'est clair que voilà, UAE, là, il va. En tout cas, il va pas falloir faire le train pour. Enfin, ce serait très décevant que ces mecs-là, là, comme Ayuso, comme Yates, qui était énorme aussi sur le dernier Tour de France, ils soient utilisés simplement pour être dans le train de Pogacar au prochain Tour de France. Et puis, enfin voilà, l'année dernière, Pogacar, enfin Vingegaard, il est battu sur Paris-Nice par Pogacar, qui est quand même voilà le meilleur coureur du monde, le coureur de référence. Je pense que ça ferait une petite différence si il était battu par Juan Ayuso, qui
De
reste quand
ouf.
même un équipier de Pogacar sur le prochain Tour de France. Voilà, enfin donc je pense que le Danois, mais bon, on
Mais il
le
est
connaît,
battu
hein,
par
Vingegaard,
Godu
ça.
aussi l'an passé. Tu vois,
Il est battu
finalement.
par. Alors. Je dis pas qu'il est, je pense pas qu'il était moins fort que David Godu, mais je pense qu'il avait essayé de suivre Pogacar, il avait un peu explosé, il avait explosé dans la tête et voilà, mais peut-être qu'il était au même niveau que David Godu. Toujours est-il que bah voilà, là ça ferait quand même un nouveau mec qui vient battre Vingegaard et un mec dont on sait que c'est un crack et voilà, qui est encore tout jeune et qui sera dans l'équipe de son principal adversaire au prochain Tour de France. Ça va être très intéressant, effectivement, ces 2 dernières journées. Et heureusement que ça donne de l'intérêt, parce que je trouve que sinon, ça fait quand même 3 étapes qu'on se fait un peu chier sur Tirreno Adriatico. Ils se sont
On
pas
va y
foulés, hein, quand
venir.
même, cette année.
On peut noter quand même pour clôturer cette première étape, tiens, la belle 8e place de Kevin Vauclin, qui confirme que voilà, sur ces courses-là, il a de belles qualités et qu'il faudra le suivre. Enfin, qu'on le suit déjà, mais qu'il faudra bien
Tout à
avoir un
fait.
œil dans les années à venir. Alors, étape 2, t'as dit, c'est un peu ennuyé, c'est pas faux. Étape qui arrive au sprint, sprint un peu chelou avec ce virage à 400 bornes de l'arrivée, la 4500, où Merlier décide de passer en tête parce qu'il a l'impression qu'il va se faire faire un coup foireux par je sais plus qui sont les deux coéquipiers là qui sont en tête du peloton là, c'est les deux de la même équipe. Merlier déboîte devant, il lance de très très loin. Jasper Philipsen se met en couveuse derrière. Alors bon, faut quand même réussir à recoller la roue de Merlier, hein, mais voilà. Puis derrière, il va s'imposer dans un sprint où Axel Zinglet fait une très belle 3e place. On voit le déclassement de Binyam Girmay qui, je crois, en a eu marre de se faire boulotter dans les sprints et qui est devenu Wagman. Voilà, c'est un surfeur maintenant,
Il l'a refait
Binyam.
aujourd'hui, hein.
Ouais, il l'a refait aujourd'hui, c'est pour ça que je dis ça. Je sais pas, genre, il a dû se dire, moi aussi, je deviens un frotteur. Enfin, j'en sais rien, mais dans tous les cas, Binyam, comme on l'a dit, hein, les vagues, c'est à l'océan et c'est pour faire du surf dessus. Hein. On arrête dans les sprints, c'est dangereux. Et puis voilà, donc à ce moment-là, on s'est dit, Jasper Philipsen, il va exploser tout le monde, surtout les sprints de Tirreno, clairement.
Ouais, c'est ça. Et puis, enfin, mine de rien, il était hyper impressionnant. Je
De
pense
ouf.
que Merlier, il s'est un peu trompé et il a voulu la jouer un peu malin en passant. Mais malheureusement, contrairement aux courses d'avant, il y a un mec qui s'appelle Philipsen. Parce que Merlier fait quand même un énorme sprint parce qu'il finit deuxième alors qu'il s'est à moitié relevé. Simplement, bah voilà, Philipsen, on peut voir que malgré tout, quand tout se passe bien dans un sprint, que c'est un sprint plat, quand même très très fort, quoi. Donc, non, mais pas de surprise, hein. Sur cette première étape, on a retrouvé les 2 meilleurs sprinteurs du monde du moment aux 2 premières places sur des sprints plats. Donc, voilà, pas vraiment de surprise.
Le lendemain, arrivé au sprint aussi, spoiler alerte. Cette fois-ci, à l'avant, on a Phil Bowes qui vient gagner une belle victoire. Je l'aime bien, Phil Bowes. Moi, c'est un sprinter que je trouve cool. Je suis content de le voir lever les bras. Derrière, Jonathan Milan, Kevin Vauclin, qui voilà, pareil. Après le beau podium d'Axel Zinglet, vient en claquer une belle aussi. Franchement, content de voir nos Français arriver comme ça, se glisser un petit peu sur des places où on les attend pas forcément.
Ouais, bah alors Kevin Vauclin, troisième d'un sprint derrière Phil Bowes et Jonathan Milan, effectivement, je m'y attendais pas, mais non, mais c'est super, hein, enfin, c'est top. Il n'y a vraiment pas de chance, Kevin Vauclin, surtout ces dernières années, là, il fait que chuter alors qu'il montre qu'il est très fort. Donc j'espère que ça va bien se passer. Et pour moi, il peut aller chercher une très belle place avec toutes ses. Enfin, c'est vraiment peut-être le Français qu'on a actuellement le plus polyvalent. Donc, non, c'est super ce qu'a fait Kevin Vauclin. Et puis bah ouais, je suis d'accord avec toi, Phil Bowes, c'est souvent un peu. On a toujours l'impression qu'il est cité comme un sprinter, voilà, un peu de
Deuxième,
seconde zone,
ouais, tout
etc.
à fait.
Mais. Je me souviens qu'au dernier Tour de France, il était déjà dans les 2, 3 premiers des sprints souvent. Et puis bah voilà, là il vient chercher une belle victoire alors que ça montait un petit peu en plus. Donc c'est assez intéressant. Non, bah écoute, très très content. J'ai rien de plus à dire sur cette étape parce que je t'avoue que c'est pas passé grand-chose non plus. Hein,
Bon,
donc
on est bon.
non mais et juste bah voilà, Philipsen qui paye un petit peu. C'est voilà, enfin ça fait longtemps, on l'avait déjà dit. Ça donne des coups de coude, ça s'impose, ça veut montrer qu'on fait un peu le caïd. Bah voilà, des fois ça passe pas et ça chute, et bah voilà, enfin peut-être que ça lui apprendra un petit peu également que parfois bah ça on essaye de passer, on croit que voilà, on est le boss du sprint, du coup on peut passer, et ben non, des fois on se retrouve par terre, donc j'espère que ça pourra peut-être le calmer pour les prochaines fois.
Et puis on peut se dire aussi que voilà, comme tu dis ça, et qu'il se rende compte que quand il est à deux doigts de foutre les autres par terre, finir au tapis, c'est pas fun. Voilà, comme on dit, ne fais pas aux autres ce que on n'a pas envie qu'on te fasse. Donc voilà, bien évidemment. Et ce grand dadais, je le dis affectueusement, de Jonathan Milan qui finissait deuxième hier, va finir premier aujourd'hui. Je dis grand dadais parce que alors Jonathan Milan, c'est quand même incroyable. Lui, vous pouvez pas le rater dans un sprint. Il n'y a pas de moment où à la fin on se dit, tiens, il est où Jonathan Milan? Je l'ai pas vu. Non, non, t'es obligé de le voir. Il est immense, ce gars. C'est incroyable quand même, hein.
Ouais, juste, je rebondis là parce que Mathieu Lecor dans le chat dit ça ferait un bien fou que Vauclin fasse un bon classement. Arkéa a besoin de points. Bah écoute, Kevin Vauclin, c'est peut-être le nouveau sprinteur de l'équipe vu que, je sais pas, Arnaud Démare, il est en vacances depuis le début de l'année ou en tout cas dans les sprints, il est aux abonnés absents. Donc peut-être qu'écoute, ils vont mettre Kevin Vauclin à la place. Ça a l'air de faire des meilleures places. Voilà.
On en
Je
parlera.
passe
D'ailleurs,
pour le petit flash.
je vois sur l'équipe l'article qui vient de sortir à 19h18. Cyclisme Paris-Nice démarre en plein doute. Voilà, on en parle juste après. On finit avec notre Jonathan Milan qui s'impose aujourd'hui devant Jasper Philipsen dans un sprint de ultra costaud. D'ailleurs, il finit le cul sur la selle. J'adore ces sprints où là, tu vois, tu sens que les deux, ils étaient au bout du bout. Je sais pas si tu as vu à l'arrivée après le temps qu'il a fallu à Jonathan Milan pour reprendre son souffle. Et c'était exceptionnel. Genre, tu le vois prendre des bouffées d'air pendant peut-être une minute sans s'arrêter. Tu sais, tu te dis là, les gars, ils ont envoyé comme jamais, quoi.
Ouais, énorme sprint, surtout qu'en plus ça avait roulé à fond. Pidcock qui lance à Pidcock qui a voulu faire un sprint de 400 mètres, déjà qui a mis tout le monde dans le rouge. Et ouais, effectivement, Milan, bah voilà, sur ses sprints, on sait que c'est un coureur hyper costaud qui passe bien les petites bosses. Et là, avec cette arrivée en faux plat montant, bah, il a une puissance sur ses. Même Jasper Philipsen, qui reste quand même pour moi le meilleur sprinteur du monde, bah voilà, c'est dès qu'il y a 2-3%, bah voilà, Milan, il a quand même enfin voilà, il a une puissance, je trouve, qui est assez incroyable, et il va chercher cette belle victoire et il prouve que voilà, Philipsen, autant Philipsen qu'il est, bah, voilà, il peut être battu sur un sprint. Donc non, très belle victoire qui continue de faire monter Jonathan Milan dans la hiérarchie des sprinteurs. Et tu vois, ça me fait dire que effectivement, on s'était dit qu'on avait fait la preview du prochain Giro où Milan sera le sprinteur de la Trek, qui a beaucoup d'étapes au sprint qui vont finir avec une petite bosse de 2-3%. Enfin voilà. Du coup, bah, je pense que Jonathan Milan, là-dessus, il devrait se régaler parce qu'il est vraiment, quand il est en forme sur ce type d'arrivée, il est très très fort. Et puis, petite mention à Jonas Abrahamsen, quand même, qui était dans le groupe échappé. Le mec fait
De
septième, hein,
ouf.
il a bien
De
fait. Mais
ouf.
lui, c'est un mec, faut pas le laisser, quand il en échappait, il a l'air d'avoir quand même une sacrée résistance. Et maintenant, je pense qu'on va le tenir à l'œil parce qu'il est assez impressionnant. Je me souviens, sur le Tour de Belgique l'année dernière, il avait fait un top 10. Enfin, c'est un coureur qui est assez gazier, on va dire, et du coup, bah, il a bien failli faire le gros coup. Et puis, donc voilà. Et puis, c'est bien d'avoir vu également Julien Lafilippe se remêler un peu à un sprint en boss. Bon, malheureusement, on voit que le niveau est pas encore incroyable, même s'il fait top 10, mais ça a un peu reculé. Mais c'est assez rassurant. Ça m'a rassuré de le voir là. Ça me rassurait pas du tout de pas le voir à l'arrivée hier, mais c'est bien. Je me dis qu'à Lafilippe, voilà, il est pas encore trop trop loin du compte, donc on peut encore espérer quelque chose sur ce printemps.
Et puis, bah, petite mention encore une fois pour Axel Zingler, hein, qui va chercher une belle cinquième place après sa troisième place 2 jours avant. Juste pour finir sur Abrahamsen, en vrai, c'est Pidcock qui le sacrifie. Hein. Pidcock, il roule pour personne si ce n'est lui. Enfin, peut-être qu'il se dit qu'il va tenir. Mais en vrai, je suis sûr que si Pidcock ne fait pas cet effort-là, les autres se regardent. Et il est peut-être à rien, Abrahamsen, d'aller nous claquer un magnifique truc. Parce que quand tous ses collègues se font reprendre au début de la dernière petite bosse, là, lui, à un moment, il en remet une. Puis quand il repart, il recreuse en fait sur le peloton. Alors que c'est des coéquipiers qui sont en train de rouler pour rentrer. Ouais, tu fais bien de le mentionner parce que c'est passé à rien pour lui et ça aurait pu être une belle histoire. Donc, en tout cas, il a montré qu'il avait le potentiel de s'imposer comme ça. Hein.
Ouais, non, mais un mec à suivre, ça aurait été bien pour une OX, mais voilà, ils existent sur ces courses et c'est bien, ils font honneur au fait à leurs invitations sur les courses World Tour, donc c'est top pour cette équipe.
Salut Franck, mon maître Jedi sur Pro Cycling Manager. Je te salue, voilà. Comme tout bon padawan salue son maître lorsqu'il rentre dans une pièce, vous connaissez tout ça, tout ça. On va pouvoir passer à Paris-Nice. Je sais pas si Titien, tu as des choses à dire. Juste peut-être dans le chat, vous pouvez nous dire vous ce que vous pensez du duel annoncé entre Ayuso et Vingegaard et si potentiellement vous voyez Ayuso capable de tenir la dragée haute à Vingegaard dans les prochaines étapes et potentiellement capable d'aller le battre, quoi. On vous le demande parce que nous, on en a parlé un peu comme ça, mais vu que vous êtes une quarantaine, c'est magnifique. On est vraiment méga contents. Vous êtes aussi nombreux que quand on fait des live Tour de France habituellement, donc ça fait vraiment trop plaisir. Ouais, voilà. N'hésitez pas à nous donner votre avis. On sait qu'il est très souvent constructif et c'est aussi pour ça qu'on fait des lives, pour partager tous ensemble sur ces questions-là. Titien, avant qu'on puisse peut-être avoir des avis dans les commentaires, toi, tu vas nous donner un avis tranché et rapide. Qui remporte Tirreno Adriatico 2024 ? Classement général.
Pour moi, c'est Vingegaard qui va gagner avec quelques secondes d'avance sur Ayuso.
Ok, ça marche. Tu sais quoi ? Moi, je vais m'en suivre.
J'espère l'inverse. Hein.
Je vais m'en suivre à ma théorie farfelue, mais peut-être bientôt validée, de Vingegaard foire sa première course par étape de début mars, que ce soit Paris-Nice ou Tirreno, et Ayuso va s'imposer, je dis comme toi, mais à l'inverse, avec quelques secondes d'avance, voilà. Je pars là-dessus. Et puis pareil, demain, quand Vingegaard aura mis 2:30 à tout le monde au sommet du dernier col, on oubliera ce moment, on le coupera dans la rediff, comme ça, voilà. Bon, n'hésitez pas à nous donner une réponse, en tout cas dans le chat. Pendant ce temps, nous, on va tranquillement partir en direction de la deuxième grosse course par étape actuelle, celle qui se passe en France, celle qui est souvent quand même la plus suivie et la plus connue par nous Français, c'est Paris-Nice. Voilà, alors on nous dit O'Connor, mais 2 minutes à tout le monde demain. Ça marche, Wiki Louis, pas de souci. Et Sam Omen, qu'est-ce qu'il fait ? Pas de nouvelles du Omen au plein, hein ? Ça rigole moins. Paris-Nice qui s'est lancé dimanche dernier. Paris-Nice qui s'est lancé avec une petite étape bien sympathique, mine de rien, là, comme ça, un peu punchy, avec des côtes de tous les côtés, et qui a vu une arrivée au sprint au Mureau avec la première victoire d'Olaf Koy. Titien, quelque chose me dit qu'Olaf Koy, il s'est dit ça me donne pas les félicitations au conseil de classe, bougez pas, je tape du poing sur la table, vous allez vite revenir sur ce que vous pensez.
Ouais, bah écoute, non, mais il est très très fort, hein, mais comme on se l'était dit, mine de rien, voilà, il. Non mais Olaf Koy, c'est, je sais pas quel âge il a, 22 ans, c'est un top sprinter, et là pour moi il fait partie des 3-4 meilleurs sprinters du monde, et en plus au-delà de cette énorme pointe de vitesse qu'il a, quand même déjà 3 victoires en Sprinter World Tour cette année avec une victoire à l'UAE et ses 2 victoires sur Paris-Nice, c'est un mec qui tire la distance.
Tu spoil.
Oui pardon, c'est vrai, je spoil un peu, mais on voit que sur cette première étape, comme sur celle qu'il gagne aujourd'hui, en gros Olaf Koy, voilà, les étapes un peu vallonnées, on l'avait déjà vu au championnat d'Europe l'année dernière où il fait 3 au sommet du Vanberg. Bah voilà, c'est un mec qui sait passer les petites bosses en tout cas. Donc ouais, maintenant c'est un sprinter qui monte. En plus, il, voilà, malgré le fait qu'il n'ait pas une équipe totalement dédiée pour lui pour les sprints, bah il sait très bien se placer. Et même Mats Pedersen qui est pourtant excellent, il peut rien faire en termes de pointe de vitesse avec Olaf Koy. Donc non, clairement voilà. Enfin aujourd'hui dans le World Tour, on voit de plus en plus que les sprinters qui gagnent, et enfin tu vois les Fabio Jakobsen, les Dylan Groenewegen, on les voit plus du tout, j'ai l'impression, ces mecs, parce qu'aujourd'hui les courses, et notamment les courses World Tour, elles sont de plus en plus difficiles, et du coup un mec comme Olaf Koy qui a la caisse et puis qui a cette capacité à passer les bosses, bah derrière avec sa pointe de vitesse, ça fait des ravages, et ça fait en tout cas une belle victoire sur cette première étape au nez à la barbe de Mats Pedersen, qui l'avait quand même bien emmené, hein, puisque Pedersen avait dû déclencher à 250 mètres avec Koy dans la roue, donc forcément derrière il s'est fait passer, mais Olaf Koy avait super bien démarré ce Paris-Nice, effectivement. Moi, il me fait grosse impression, en tout cas, ce jeune.
Il garde une vélocité. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bon, vu que tu as spoilé, on peut le dire, il a encore gagné aujourd'hui. Mais encore une fois, dans les derniers mètres, quand tout le monde est à fond, là, avec ses sprints lancés un peu de loin, il arrive toujours à en mettre une petite. C'est impressionnant, je trouve.
Ouais,
vraiment, il a...
Très,
très bien. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à lâcher un petit like sur le live, histoire qu'ils soient encore mieux référencés, qu'on soit encore plus nombreux d'ici la fin de cette débrief Paris-Nice. Juste, on nous parle encore un petit coup de Tirreno. Guillaume qui nous dit, Kevin Vauclin avec 15 secondes d'avance. Derrière, on nous dit, c'est mon rêve de voir Vauclin gagner. Tu tiens, Vauclin avec 15 secondes d'avance, on signe. Hein, on signe tout de suite. Il n'y a pas de souci, on n'y croit pas trop, mais on signe. Moi aussi, ça.
Samedi, c'est pas possible, mais tu vois, demain, ça attaque un peu dans le col, mais tout se regroupe en bas de la descente. Vauclin qui sort un peu dans la dernière bosse, pas trop pentu. Enfin, il y a un monde où c'est possible demain.
On prend
samedi,
en tout cas.
Non, il pourra pas gagner.
celui qui a fait un magnifique sprint et qui est en train de nous faire dire et de dire faire dire à la FDJ ouais on a bien fait de le laisser partir à Arnaud Démare en fait parce que pendant qu'il est un petit peu à la dérive, il y a un autre gars là qui s'appelle Laurence Pitti, Lawrence, mais on va l'appeler Lolo, c'est plus rigolo, qui fait une belle troisième place sur l'étape 1, qui nous fait une très belle deuxième place sur l'étape 2, avec d'ailleurs la magnifique victoire à Montargis de Arvid De Kline. Comme quoi lui aussi hein, il nous prouve que on peut perdre, enfin on faut jamais lâcher quoi hein. on peut réussir à gagner même quand on n'a pas 20 ans. Et puis Laurence Pitti qui fait une magnifique deuxième place, donc pareil Dylan Groenewegen qui là pour le coup avait réussi à se placer. Et puis derrière sur cette étape là on n'a pas forcément revu ce qu'on avait vu à l'avant le jour 1 de cette course.
Ouais, bah tu parles de Laurence Pitti, c'est un crack, hein. Putain, le gars, il a quoi, 21, 22 ans.
Tout jeune, ouais.
Il a l'air très très fort. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit un pur sprinter. Je pense que c'est un mec un peu, peut-être un peu comme Mats Pedersen, un mec qui va un peu passer partout, qui a avec une très bonne résistance, qui a une bonne pointe de vitesse, mais qui va être également très bon dans les petites bosses, etc. Donc, enfin, tu vois, il m'a tout l'air d'avoir le profil du mec sur des Tours des Flandres, sur des Paris-Roubaix, ça pourrait très bien le genre de coureur. Donc, d'ailleurs, je crois qu'il a brillé un peu sur les premières courses au Newsblad. Là, il était parti dans un groupe de tête avec Van Aert à un moment. Sur Kurn, pardon. Non, mais voilà, Laurence Pitti, bah, c'est clair que la Groupama FDJ, elle tient hein, lui aussi. Je crois qu'il est en fin de contrat à la fin de l'année, donc lui aussi, il va falloir un petit peu aligner les. Bon, je crois que Grégoire aussi en fin de contrat à la fin de l'année.
Oui, les trois, les trois jeunes.
Il va falloir clair. Mettre l'argent. S'ils arrivent à gagner les trois, à garder les trois, franchement, ce serait incroyable pour l'équipe parce que ces trois cracks et Pitti, bah, on le découvre hein, depuis. Enfin, voilà, l'année dernière, il n'avait pas vraiment percé à ce niveau-là, mais là, on le découvre vraiment et il est très, très, très fort. Donc, non, c'est un mec à suivre, c'est sûr.
Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur l'étape 2, si ce n'est que du coup Laurence Pitti, après ses deux belles premières étapes, endosse le maillot de leader à l'issue de l'étape 2. Et on passe ensuite sur la première vraie étape très intéressante de ce Paris-Nice, ce chrono par équipe avec temps pris à la fin du premier coureur. Et on a vu, on le disait, UAE qui marche très bien en chrono en ce moment. Alors, ce chrono a été un tout petit peu biaisé par les conditions climatiques qui ont fait que certains ont eu de la flotte, d'autres pas sur l'arrivée. Malgré tout, UAE qui nous sort un super chrono. On a vu des équipes, on a vu deux types de stratégies, des équipes qui mettaient tout au début et qui finissaient à 3-4. Titien, j'avais noté que dans la preview, tu avais dit très tactiquement, d'ailleurs, il faudra peut-être garder des gros rouleurs malgré les bosses parce qu'ils vont être bien utiles dans cette deuxième partie qui ne sera que du faux plat descendant jusqu'à Auxerre. Je pense que les équipes qui ont suivi ton conseil sont les équipes qui ont le mieux performé sur ce contre-la-montre. On a vu notamment les Bora finir à 3 à partir de la descente et prendre presque une minute, enfin 54 secondes par rapport à UAE.
Ouais, bah, UAE, je sais pas, ils ont dû faire un stage intensif de contre-la-montre cette année, mais ils sont tous très très forts. Hein. Il y a Ayuso à Tirreno, et puis là, bah, ouais, on l'avait déjà vu autour UAE, là, où ils avaient dominé le contre-la-montre avec Jevine, avec McNulty, la Finn Fisher Black et tout. Ils sont tous excellents en contre-la-montre. Joe Almeida qui se défend pas mal dans l'exercice. Donc, non, la formation, c'est une belle victoire. Je suis pas sûr qu'ils auraient gagné, hein, si les conditions climatiques étaient restées les mêmes pour toutes, parce que la Soudal était quand même très bien partie.
Ouais.
Mais voilà, toujours est-il qu'effectivement, les mecs qui étaient au moins à 4-5 encore en haut de la bosse, bah, ces équipes-là, elles ont su limiter les dégâts, au contraire d'autres équipes dont on va parler après, qui se sont, je sais pas comment ils ont couru, mais ils étaient plus que 2-3 au sommet de la bosse, et forcément derrière, bah, l'addition, elle est très, très, très salée. Donc, pas de surprise, les Jayco, ça fait plaisir, mais ça a toujours été des spécialistes du contre-la-montre par équipe, donc. Finalement, pour moi, le classement était cohérent, si ce n'est que ça a forcément bougé, malheureusement, à cause des conditions climatiques, mais ça, c'est des faits de course, donc il valait mieux ne pas être bien placé au classement par équipe pour gagner, mais en tout cas, bien joué au UAE sur ce contre-la-montre qui prouve que dans cette équipe, on a des très très bons rouleurs.
Alors, on nous a parlé tout à l'heure déjà des casses de la Jumbo, on nous a demandé, alors on avait un peu skip la question pour pouvoir y revenir maintenant. Alors oui, hein, on voit des casses de plus en plus dingue, comme à une époque on voyait des machines de plus en plus dingues, on sent que ça va légiférer là-dessus. Je pense en tout cas clairement qu'un casque ultra aéro est beaucoup plus utile dans un contre-la-montre solo que dans un contre-la-montre par équipe, où on voit que ce qui est quand même le plus important là-dedans, c'est d'être capable de bien suivre la roue du collègue devant. On a vu que dans certaines équipes, ça fonctionnait beaucoup moins bien. Voilà, c'est plus la capacité, je pense, à rouler très vite, très proche, qui permet de remporter un contre-la-montre par équipe que les soi-disant casques révolutionnaires, comme tu le dis, Franck. En tout cas, on sent que l'UCI, ils ont... Alors, il y a des trucs qui mettent bien longtemps à légiférer, bizarrement, puis il y en a d'autres, on voit ce qui leur plaît ou ce qui leur plaît pas. Bah, le style Alien, Wall-E, ou comme vous voulez, là, ou Gap de la Jumbo, clairement, ça leur plaît pas. Risque d'y avoir une petite règle qui va tomber sur ces casques. Moi, je pars du principe que, de toute façon, en fait, à partir du moment où on autorise largement, bah, faut s'attendre à ce que y ait des dérives, comme on pouvait en avoir avec certaines combinaisons de chrono qu'a pu utiliser la Sky à un moment. On s'est dit, oula, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, etc., etc. Je trouve que c'est de bonne guerre que les équipementiers, voilà, ils nous sortent des trucs. En plus, c'est rigolo, ça fait parler, c'est des photos, si on les voit en ligne, pour quelqu'un qui suit pas le vélo, ça va tout de suite lui donner envie de cliquer, d'aller voir ce que c'est que cette histoire du mec qui finit avec un casque qui fait trois fois sa tronche. Après, par contre, je pense en effet que c'est important de légiférer là-dessus et de revenir, voilà, je pense, sur des casques où on met une dimension en largeur, en hauteur, en longueur, et comme ça, tout le monde sera content. Et puis voilà, je sais pas ce que t'en penses, Titien.
Ouais, non, mais t'as tout dit. Écoute, j'ai pas d'avis un peu marqué. Le jour où, par contre, voilà, les coureurs, y aura des casques comme ça dans un peloton, à mon avis, ça posera beaucoup plus de problèmes. Bon, sur un contre-la-montre, le mec il est tout seul, ou alors par équipe, mais t'as quand même rare. Enfin, t'as pas beaucoup de contre-la-montre par équipe chaque année, donc ça me pose moins de problèmes que certains casques qu'on commence à voir apparaître dans le peloton, qui ressemblent plus à des casques de chrono qu'autre chose. Toujours est-il que voilà, bah ouais, enfin, c'est sûr qu'il faut légiférer là-dessus, faut voir ce qui est. Bon, les cagoules, tout ça. Après, pour moi, on est vraiment sur du gain. Enfin, tu vois, les Bora, ils avaient cette fameuse cagoule, ça les a pas, ça leur a pas empêché que de rater totalement leur chrono par équipe. Bien. Donc, bon, après, c'est vraiment des gains à la marge. Donc, il faut voir à la fois ce que propose le casque en question, le matos. Et puis, alors voilà, Claire, je suis un peu partagé sur ce truc. D'un côté, oui, bah, faut toujours progresser, etc. D'un autre côté, je sais pas si un casque aussi gros en mode alien, etc. Ça, bon, après ils ont dû faire des études et tout, mais je sais pas. Je te dirais que je m'en fous au fond. Ça change pas grand chose tant que voilà. Non, mais c'est clair que ça me choquerait beaucoup plus qu'il y ait vraiment des gros changements sur les étapes en ligne. Voilà, le contre-la-montre, c'est de l'aérodynamisme pur. Il y en a quelques-uns dans l'année. Voilà, de toute façon, les vélos de contre-la-montre, déjà, ils n'ont rien de comparable avec les vélos classiques qu'on a sur les étapes en ligne. Donc, écoute, tant que ça ne devient pas du grand n'importe quoi, et surtout, le point le plus important, évidemment, tant que ça ne met pas en péril la sécurité des coureurs en cas de chute, par exemple, c'est surtout ça le truc, parce que si ton gros casque, finalement, il ne tient pas bien, et il se pète, ou j'en sais rien, ou il n'est pas du tout adapté pour se protéger en cas de chute, c'est là qu'il va y avoir un vrai problème. Donc on va voir ce que fait l'UCI sur le sujet.
Comme tu le dis, même pour les étapes en ligne, que ça vienne pas, parce qu'on sait que quand on roule en peloton, on est proche ou machin au truc. Enfin, le casque de la Jumbo qui dépasse de, je sais pas, allez, peut-être 20-30 cm derrière, quand tu tournes la tête, si t'es collé à quelqu'un, tu lui fous en pleine tronche, quoi. Enfin, tu vois, c'est des trucs aussi auxquels il faut penser. Et clairement, moi je suis d'accord, hein, je pense qu'on devrait, l'UCI devrait mettre en place vraiment un modèle standard de taille de casque, comme ça on n'en parle plus. Si le modèle standard, ça ressemble au casque que tu peux avoir et qui sont les casques habituels, pourquoi pas. S'il décide, comme tu dis, Titien, et moi je suis plutôt d'accord avec toi, de laisser un petit peu plus de fantaisie, parce que voilà, c'est aussi une question technologique, machin. Enfin, on sait que le vélo, c'est aussi un sport technologique au-delà des jambes. Voilà, ça me va, du moment qu'on arrive à un truc assez, assez clean, assez clair, et qui ne permettent pas non plus toutes les folies, et surtout, comme tu disais, qui mettent pas en danger les coureurs, et que ça reste des casques qui soient là pour protéger la tête avant d'être là pour faire gagner des secondes. Voilà, voilà.
C'est ça.
On va passer à l'étape suivante, parce que, alors, n'en déplaise au commentateur d'Eurosport qui m'a fait m'arracher les cheveux quand je l'ai entendu hurler à l'arrivée. Ah, regardez, il sprint magnifique entre Remco. Oh, il se fait passer. Ah, merci les coureurs pour cette étape exceptionnelle, machin. Ben moi, l'étape du Mont-Brouilly, surtout après le chrono de la veille où Primoz, il avait perdu 50 secondes, où Remco avait perdu du temps aussi un petit peu, je m'attendais à avoir un truc tout feu, tout flamme. Finalement, heureusement que la bouitre était là, sinon j'ai l'impression qu'on se serait fait bien chier, Titien.
Ouais, étape très décevante, hein, surtout après le chrono qui avait généré des écarts, hein, dont je pense personne ça, voilà, personne s'attendait à ce que Roglic il soit à plus d'une minute au classement général, même si voilà, Bora c'est peut-être pas la jumbo où il était avant. Mais toujours est-il que bah pour moi c'est symptomatique qu'aujourd'hui Primoz Roglic et Remco Evenepoel sont d'excellents coureurs, mais quand tu vois à côté les perfs en montagne de Jonas Vingegaard ou Tadej Pogacar, je peux te dire qu'un Pogacar il serait pas resté avec le peloton comme ça. Lui, quand Buitrago et Plap il serait sorti, il y serait allé à mon avis. Donc voilà, on les présente comme des fantastiques, mais bah voilà, ils sont au niveau des autres, hein, et même si Remco Evenepoel était trop fort, était très fort, il a réussi à lâcher personne. Donc étape décevante à la fois parce que je pense qu'il y a une petite frilosité, et puis parce que finalement le niveau est assez homogène et ceux qu'on présentait comme les grands favoris de cette course, bah ils sont pas au niveau, hein. Je pense que Roglic, s'il avait pu reprendre du temps, il en aurait pu tout simplement. Et il a fait du Roglic, c'est-à-dire en étant très bon, en gérant parfaitement son effort, mais on le voit, il était loin, loin, loin d'un niveau qui lui permettait de partir de loin. Mais c'est pareil pour Remco Evenepoel. Pour moi, il y a vraiment Remco Evenepoel, c'est un extraordinaire coureur, mais il y a le Remco Evenepoel des courses d'un jour, qui est capable, sur un terrain vallonné comme ça, de partir à 40 km de l'arrivée et puis ciao, bonsoir. Et puis il y a le Remco Evenepoel des courses par étapes, beaucoup plus calculateur, mais au-delà d'être beaucoup plus calculateur, qui a moins cette marge, bah voilà, avec les facultés de récupération et tout qu'il a sur les autres courses, parce que même Evenepoel il donne tout, hein, à la fin, et ils reprennent pas grand-chose sur Buitrago, il se fait battre par Skelmos, derrière t'as des mecs quand même qui ont moins de punch que lui qui finissent à 2 secondes. Donc non non, le niveau est très très homogène, et donc ce qui explique aussi le voilà cette étape, je pense que personne ne se sentait en niveau, enfin finalement avec les jambes pour se dire tiens, je peux attaquer dans l'avant-dernier col ou l'avant-dernier col et puis lâcher mes adversaires. On sait que ça se joue à coups de seconde. Donc vu les prévisions qu'il y a sur ce week-end, je me suis dit que s'il y a un favori qui avait pu écraser la course hier, il l'aurait fait. Ça n'a pas été le cas. Donc finalement, à Paris-Nice, ce qui me paraît bien bien plus ouvert que ce qu'on pouvait imaginer.
Et puis, franchement, il y a un moment où c'est après la descente du Mont Brouilly, là, que avant la Bonif, au moment où ça tape là, dans la Bonif, il y a un petit groupe qui sort où tu as Remco, tu as Primoz, tu as d'autres leaders qui sont devant avec eux, là. Ils se retrouvent à 4-5, tu sais. Et finalement, ils décident de ne pas y aller. Et moi, je me suis dit, mec, j'ai pas compris, tu vois. UAE était piégé, il y avait des coureurs qui étaient piégés derrière. Il y avait un petit groupe où ils auraient pu se dire, on y va à 4. Et là, c'était le coup de panache à avoir. Enfin, c'était top, tu vois. Et je me suis dit, ah, ça s'enflamme, et là, on va se régaler sur la fin, quoi. Puis finalement, non, ça se relève, ça se regarde, ça fait rouler les équipiers comme pas possible dans les bosses. Et puis, on a vu qu'un mec comme Buitrago, qui semble bien en jambes pour le coup. Moi, franchement, après ce qu'on a vu là, ce qu'on a vu de Buitrago. Hier, je me dis clairement, on va voir comment ça se passe dans les montées d'après, hein, mais il me semble en forme, il me semble très bien, et je serais peut-être même pas étonné qu'il soit capable de résister à tout le monde pour aller s'imposer, sachant que comme dit, je suis assez d'accord avec toi, au vu de ce qu'on annonce sur ce week-end en termes de conditions, et notamment l'étape de demain qui devrait pas pouvoir aller à son terme, franchement, c'est... Voilà,
Pour samedi,
Paris-Nice.
non?
Oui, de samedi, pardon. Oui, dans ma tête, on est déjà vendredi, il faut que je
Le
m'arrête.
week-end arrive, ne
C'est
t'inquiète
ça,
pas.
il faut encore travailler une journée, putain. Ouais, non. Du coup, peut-être que les écarts qu'il y a là et qui ont été faits seront les écarts qu'il y aura à la fin. Donc voilà. Et puis, on nous dit, voilà aussi dans le chat, Bernal qui est revenu. Ouais, je suis très content. Bernal qui confirme qu'il nous avait déjà fait une belle impression sur Au Grand Camino. Et puis là, qui, sans être exceptionnel, bah, nous montre qu'il arrive à suivre, qu'il est dans le tempo, qu'il est dans le groupe des favoris. C'est cool. Ouais, vas-y, tiens, pardon.
J'ai une petite info là, je vois ça sur Internet, c'est déjà acté, hein, l'arrivée, l'étape arrivera pas au rond samedi, c'est officiel
Ok.
d'ASO.
Est-ce qu'on
Et en fait, ça
a une idée
arrivera
du...
toujours en altitude à la Madone du Tell. Alors une ascension beaucoup plus longue, 15 km d'ascension, mais une pente à 5,7%.
Ok,
Qui
donc
était
c'est...
déjà arrivé sur un Paris-Nice le 2016, dans mes souvenirs, c'est arrivé là-bas avec une victoire, je crois, de Geraint Thomas devant Contador. Tout s'était joué entre les meilleurs en 4-5 secondes, mais ça reste une belle montée longue, mais moins pentue.
On va
Je pense
regarder
que
si
c'est moins haut
on...
en altitude, donc moins rythme, moins de risque de neige, mais en tout cas, voilà, il y aura quand même une belle arrivée en altitude samedi.
On va aller voir
Une
tranquillement
étape
le
de 104
profil.
bornes.
Ok, et donc du coup, ils vont enchaîner quand même le col qu'il y avait au milieu et ils vont finir. On est en train de regarder là, je l'ai mis si tu veux regarder, Titien, le profil sur
Ouais.
le live là. Oui, donc on a 15 bornes et demie, c'est ça? Tu dis en effet moins de pourcentage, mais ça reste une belle petite ascension quand même, hein. C'est quoi? C'est 6% de moyenne? 5-6? Ça doit être quelque chose comme ça?
Ouais, 5,7, donc ouais, c'est en moyenne 6%, donc c'est quand même pas des gros pourcentages, mais c'est de la distance. Donc écoute, j'ai envie de dire que ça compense. Il n'y a pas tant de différence que ça avec Oron, c'est moins pentu, c'est plus long. En tous les cas, en fait, je sais pas, t'as juste trouvé le profil de. Je sais pas s'il y a un profil d'étape qui est déjà sorti, je suis en train de regarder,
Non,
mais
j'ai juste le profil du col, tu sais, sur le magnifique
je.
site Col Cyclisme que je vous
Ouais, bon, de toute
conseille.
façon, j'ai l'impression dans ce qui se dit que globalement ce sera une course de côte cette étape.
Donc ils font sauter le col de la Colmiane?
Bah, je sais pas,
Quoi
Ouais,
ça?
je crois qu'il. Alors, au lieu de 173 km, c'est 104 bornes.
Ok.
Et je vois juste la Madone d'Utelle comme ascension. Peut-être qu'il y en aura d'autres dans. Je connais. S'il y en a qui connaissent le coin, vous pouvez imaginer, si vous ne voyez pas de profil, par où ça passe. Mais bon, dans tous les cas, voilà, la Colmiane, ça n'aurait pas joué un grand rôle dans l'étape. Hein, donc, on va pas se le cacher. C'était course de côte sur Euron. Là, ce sera course de côte dans la Madone d'Utelle. Donc, on aura
Après, tu
quand
vois,
même une.
si t'as 104 bornes et que t'enchaînes Colmiane, Madone d'Utelle, en vrai, tu dis que la Colmiane, elle peut servir. Dans le sens où, tu vois, tu pars à là, ce qui est le kilomètre 76, tu montes, tu redescends, t'as fait 70 bornes. Si tout de suite derrière, tu te tapes la Madone d'Utelle, t'as quand même deux enchaînements de belles bosses, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
Genre, sans dire que ça va
il faudra
attaquer,
voir
mais.
quand on aura un peu plus d'infos, mais ouais.
Après, ça se trouve, c'est pas
Écoute,
du tout
en
au
tout
même
cas,
endroit
voilà,
et.
c'est acté, l'arrivée ne restera pas au rond, on aura quand même un col pour terminer samedi, donc il y a encore au moins deux étapes avec l'étape du dimanche, évidemment, pour renverser le classement général, donc ce Paris-Nice
Ah.
est loin d'être joué,
Polo nous dit Polo
ouais,
du
donc
13, donc il est dans le coin.
là,
Il nous dit tu peux pas faire la
bien
Colmiane plus la
renseigné, Polo.
Madone d'Utelle, c'est ça. Polo, toi qui es dans le coin, est-ce que tu peux nous dire un petit peu est-ce que déjà tu connais la Madone d'Utelle? Tu nous dis depuis Page, on ne sait pas depuis où ils vont la monter.
Alors,
Ah si, t'as les infos, Titien.
j'ai pas les infos, alors c'est à prendre avec des pincettes, mais en gros, l'étape de 2016, c'était déjà à Nice, la Madone d'Utelle. Alors bon, c'était 177 km, là ce sera 104, mais c'était une étape qui était quand même passée par plusieurs cols. Hein. Il y avait des cols de première catégorie, des cols de deuxième catégorie, et donc c'était bien arrivé à la Madone d'Utelle avec 3-4 cols avant, des cols pas trop difficiles, mais quand même une journée qui avait été très vallonnée. Donc c'est vrai qu'à mon avis, dans le coin de Nice, etc., ça fait que monter. Donc il est possible qu'il y ait pas mal de bosses. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que là-bas, ça dépasse pas les 1000 mètres de dénivelé. Donc le risque de neige par rapport à Oron est bien moindre. Donc voilà. Et puis petite information, si on se demande un peu comment est sélective cette ascension de la Madone d'Utelle, donc en 2016, les cinq premiers étaient arrivés en 5 secondes, mais c'était Zakarin, Geraint Thomas, Contador, Richie Porte. Donc Henao, que des cadors il y a ces années-là. Donc c'est quand même une montée qui reste sélective. Hein. Le 15e, il était à plus de 2 minutes.
Ok, très bien. Bon,
Voilà,
et
sur les
ben,
infos qu'on a. Donc on verra.
bonnes infos sur cette dernière étape de Paris-Nice qui devrait du coup s'affiner demain. On en profite. Alors, on va faire deux choses. On va quand même parler de l'étape d'aujourd'hui et de la magnifique victoire d'Olaf Koy, parce que voilà, hein, il faut assisteront. Et derrière, on se fera toutes et tous un petit prono. Voilà, un petit prono comme ça sur qui va remporter ce Paris-Nice. Il faudra se mouiller, mesdames et messieurs. On attend de vous le meilleur mouillage. Aujourd'hui, Olaf Koy qui remporte un magnifique sprint, encore en costaud. On a eu deux très beaux sprints aujourd'hui, il faut le dire. Hein. Bon, fallait allumer la téloche à 2 km de la fin, mais malgré tout, c'était très beau. Olaf Koy qui s'impose devant Mats Pedersen, Pascal Ackermann, que j'ai cru à un moment hein, qu'il allait s'imposer, Pascal Ackermann, je trouvais ça magnifique. Sam Bennett qui a fait rouler ses gars, nous prend une 4e place. Et puis voilà quoi, hein, c'était un beau sprint en ligne sur la fin, avec un peu de suspense jusqu'au bout, rien de plus à dire, si ce n'est que Olaf Koy bah, passe une deuxième fois devant Mats Pedersen, qui va enfin, définitivement devenir Mats le dauphin hein, à la fin.
Ouais, bah écoute, ouais, je misais beaucoup sur Pedersen, mais peut-être que j'imaginais pas Olaf Koy passer aussi bien les difficultés. Et du coup, bah non, mais impressionnant Olaf Koy. Et puis ouais, bah Pedersen, ça va être dur demain, c'est la dernière chance, mais demain, attention, il peut se passer beaucoup de choses aussi. Donc Bon, en tout cas, c'est les mêmes qu'on retrouve hein, depuis le début de ce Paris-Nice. Et j'ai envie de dire qu'encore une fois, bah voilà, les Fabio Jakobsen, les Dylan Groenewegen et consorts qui, voilà, qui dominaient les sprints il y a quelques années. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ils me semblent quand même dépassés. Et ils sont venus un peu, enfin, pas pour rien sur ce Paris-Nice, mais un peu partis dans l'anonymat. Donc, ouais, il y a vraiment une nouvelle génération menée par ces Olaf Koy là, au sprint avec des Laurence Pitié, etc., qui brille, des sprinteurs aujourd'hui qui savent passer les étapes difficiles. Et donc, alors je pense qu'Olaf Koy, il va en gagner beaucoup, beaucoup cette saison. Il faut rappeler que sur le Giro, il sera le principal sprinteur, que dès qu'il y aura un sprint, il aura comme poisson pilote Wout Van Aert. Donc, rien que comment il
Oui.
se débrouille aujourd'hui en termes de vitesse sans Van Aert, je pense que ça va faire très mal.
Ça va être du costaud, on est d'accord. Juste, messieurs, dames, est-ce que vous savez qu'actuellement on est à 1899 abonnés? Ce qui veut dire que si là il y a une seule personne qui s'abonne, on passe les 1900 directement en live, ce qui serait exceptionnel. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas. Et si vous l'êtes, mais que vous connaissez quelqu'un pas loin de vous ou dans votre entourage qui pourrait être intéressé et qui ne l'est pas encore, dites-lui qu'on passe ces petits 1900 en live. Ce serait la régale. Pareil, si vous voulez que ce live puisse être vu par un maximum de monde, bah, pétez un like sur ce live de manière à ce qu'il soit le mieux référencé possible. Fini pour le petit point réclame. On a un très beau mouillage de nuque, en effet, comme le dit Louis Laval, de Guillaume. Guillaume qui nous dit que c'est Ewen Costiu qui va s'imposer. Quiz 6900, on nous demande. Non, en vrai, 6900, désolé les gars, peut-être pas grand-chose de plus, si ce n'est qu'on vivra un moment historique quand même. Un pas de plus vers les 2K abonnés. Ewen Costiu pour la gagne. Magnifique le mouillage de nuque. Titien, à ton tour. Qui va remporter ce Paris-Nice? Tu veux que je dise en premier si tu veux? Moi j'ai une idée bien précise.
Vas-y.
Ah, pour moi, c'est Santi Buitrago qui va s'imposer. La Buitre, je pense que il est très fort. Ce qu'il attend là dans les prochaines montées, ça lui fait pas peur plus que ça. En plus, à la Bahreïn, il peut quand même avoir deux, trois collègues pour l'accompagner, rouler un petit peu, notamment contrôler sur la dernière étape. Je mets tout sur Buitrago.
Je vais quand même dire Remco Evenepoel. Je ne crois plus en Roglic, très décevant. Donc je vais dire Remco Evenepoel, 30 secondes. Enfin, il a quoi? 20 secondes de retard sur Buitrago, 30 sur Plap. C'est encore possible pour le Belge. Si, enfin voilà, c'est quand même Remco Evenepoel. Donc écoute, là Remco, il a presque éliminé Primoz Roglic, même s'il faut jamais éliminer le Slovène. Mais et voilà, il peut gagner sa course par étape de l'année. On avait dit que, enfin d'ailleurs, mon prono Finn Fisher Black hein, sur le podium de Paris-Nice, 3 étoiles, j'ai bien pleuré. Donc écoute, Remco, si tu veux aussi casser mon prono, que tu gagneras pas de course par étape pour le tour cette année, c'est encore possible. Non, mais j'y crois encore. Mais Buitrago, là, pour moi, c'est quasi sûr. Il sera sur le podium à la régulière. Il est quand même très très fort. Et puis hâte de voir. Enfin, c'est la première fois qu'on voit Luke Plap. Bah voilà, un peu dans cette situation. Enfin, faut pas oublier que c'est lui à cette heure-là, le leader de Paris-Nice. Hein,
Tout à fait.
Tu vois, finalement, il a vite cédé sur les pentes du Mont-Brouilly, mais il perd que 10 secondes hein, sur Buitrago à l'arrivée. Donc il s'est pas écroulé. Et attention, c'est lui le leader du classement général. Il est très jeune. On l'a encore rarement vu. Enfin voilà, il a disputé quasi aucune course par étape avec ce statut de leader, si ce n'est que je me souviens qu'il avait fait des perfs sur l'UAE Tour. Donc on le découvre un peu là à ce niveau-là et hâte de voir ce qu'il peut faire sur ce dernier week-end qui s'annonce quand même difficile.
Alors, messieurs, dames, je vois de nombreux pronos, mais avant tout, je crois que si on actualise là, tout de suite maintenant, on est à 1900. Alors, je ne sais pas, Guillaume, si c'est David Godu, qui selon toi est en train de s'ennuyer, qui est venu s'abonner à notre chaîne, mais ça y est, moment historique en direct. Ah non, incroyable! C'est redescendu, on était passé à 1900, on est repassé à 1899. Il y a quelqu'un qui nous troll, je pense, Titien. Je ne sais pas qui c'est, mais trollez pas trop parce qu'on va vous retrouver. Hein. On nous parle de Bernal. On nous dit Bernal qui va venir s'imposer. Certains aimeraient bien. C'est vrai que pour l'histoire, une victoire de Bernal. Moi, pour le coup, une victoire de Bernal, j'y crois pas trop. On l'a vu capable de suivre, mais on l'a pas vu offensif non plus. Donc non. Je pense qu'en plus, au vu du profil des montées qui vont arriver sur les jours à venir, je pense que pour le coup, Remco sera plus fort que Bernal sur les différentes pentes.
Ouais, mais enfin, en fait, ouais, ça fait juste trop plaisir de revoir Bernal à
De
ce niveau.
ouf.
Enfin, ça fait un an et demi que c'est la galère. Même si l'année dernière il a eu quelques fulgurances, on l'a jamais. Enfin là, il joue pour un podium de Paris-Nice. C'est encore tout à fait jouable pour Bernal. Hein. Mine de rien, au-delà de ses qualités hein, de grimpeur. Je trouve qu'il a également retrouvé de l'envie, du punch, etc. Enfin voilà, Bernal, l'année dernière, il était assez diesel. Là, tu vois que ben, voilà, hein, derrière Remco, là, dans la montée hier, c'était quasi lui qui était là. Hein, donc, alors que pourtant, c'est pas le coureur qui a le plus de punch, ce qui montre quand même qu'il a retrouvé un excellent niveau. Carlos Rodriguez, il est assez en retrait. Donc, je pense que c'est vraiment lui le vrai leader d'Ineos. Et voilà, on s'interdit pas qu'un Bernal retrouvé avec l'envie qu'il a, il puisse aller chercher un podium sur ce Paris-Nice. Donc, quoi qu'il en soit, ça fait super plaisir. On sent qu'il est content, voilà, de figurer à ce niveau. Donc voilà. Et
un autre truc que je voulais.
Ouais, ben le problème c'est qu'il a fini quoi ? Il a fini à presque 2 minutes hein, sur le chrono par équipe. Donc il est très loin au classement général.
Essayer de choper le classement général là pour qu'on savoir exactement.
Ah, il est pas dans le top 10. Hein.
On l'a sous les yeux. Actuellement, messieurs, dames, nous avons Luke Plapp en première position. Okay. Derrière, Santiago Buitrago à 13 secondes. Brandon McNulty à 27 secondes. Joao Almeida, par exemple. Est-ce qu'il peut s'imposer, Joao Almeida ?
Non, pour gagner, il faut attaquer, il faut être capable de lâcher les autres. Almeida, pour moi, c'est un coureur qui est... Non, mais on n'a jamais vu Joao Almeida attaquer, c'est assez
en
rare.
En 50 ans Il n'a jamais levé sa selle, le bougre. C'est fou, Almeida, on l'a déjà vu attaquer. C'était sur une course d'une semaine l'année dernière, je crois, où il en met une et il va s'imposer sur une étape. T'abuses.
Bon, c'est quand même pas. Il avait gagné sur le Giro l'année dernière, c'est vrai, devant Geraint Thomas, il avait attaqué. Mais Almeida, enfin, j'y crois pas. En plus, c'est pas un bon descendeur. L'étape de dimanche, elle lui sera pas favorable. Pour moi, voilà, ceux qui sont encore en embuscade, tu vois, Roglic, il est loin. Skelmoseux, il est quand même très très loin.
Ouais,
27,
ouais.
C'est énorme.
C'est clair.
C'est énorme. Après, il faudra voir les conditions de l'étape de dimanche. Tu vois, s'il pleut, etc. Bah voilà, un mec qui part de loin, qui descend bien, par rapport à un mec qui serait totalement bloqué dans les descentes, ça peut être également hyper intéressant. Et juste, je voulais dire, ouais, j'ai regardé le profil de l'étape de demain. Les 20 derniers kilomètres, en fait, demain, ça peut donner lieu, tu vois, un Remco, à mon avis, s'il peut exploiter l'étape de demain, il y a des choses à faire parce que, en fait, t'as la montée de la Col sur Loup, là, qui est à quoi ? Qui est à 25 km de l'arrivée.
Peu, hein. Ouais.
Et ça monte à 2 km à 10%, donc c'est très difficile. Ensuite, t'as une dizaine de kilomètres faux plat montant,
ouais,
des remontées, etc. Et puis ensuite, où ça aura bien du mal à s'organiser, souvent, ça fait très mal, hein, ces trucs-là, après à grimper, ensuite ça file tout droit en faux plat descendant jusqu'à l'arrivée. Si des équipes se sont pas réorganisées derrière, tu vois, enfin alors tout le monde peut pas le faire, mais un mec comme Remco, il serait peut-être bien, tu vois, si la montée de samedi est pas assez difficile pour faire des écarts et c'est compliqué de tout miser sur dimanche, il serait peut-être bien, je sais pas, en tout cas, attention, demain il peut se passer des choses.
On a Laval Tourisme qui nous dit qu'il y a un super camping à Tourette-sur-Loup, voilà, si jamais vous êtes intéressé. Bah, n'hésitez pas, hein. On pourrait faire le tour de France des meilleurs campings en haut des meilleurs boss. C'est vrai, t'as raison. Et même, tu vois, si t'es vraiment, vraiment dalleux, tu peux même te dire que tu peux commencer à faire rouler salement tes coéquipiers dans le col du Goudron qui est pas si dur que ça. Mais voilà, derrière, c'est que de la descente quasiment. Donc, tu peux continuer à bourriner comme des ouaves. On a vu d'ailleurs avec ce qu'a fait la Bora au-dessus du Mont Brouilly que si tu roulais. Bien fort, t'avais quand même moyen de, en roulant fort en haut d'école et en attaquant derrière dans les descentes, de créer des petits écarts sans dire que tu pouvais faire des trucs de dingue. Tout ça pour préparer en effet une grosse attaque au sommet de la Col sur Loup. Là, ouais, t'as raison. En effet, c'est pas à sous-estimer. Et quelqu'un de costaud, comme tu dis, qui arrive à désorganiser un petit peu tout ça, là, peut être capable de faire un bourrette solitaire, ou même si tu sors à 2 à 3 costauds, tu vois, je pense notamment au mec, bah alors Remco, il est en retard, mais pas tant que ça, mais là, pour le coup, t'es Roglic, t'es sorti avec Remco dans cette colle-là, tu roules, au moins pour aller jouer le podium, quoi. Je veux dire, si personne d'autre t'a suivi...
Ah non, mais ouais, c'est pour
là,
ça que, deux mecs,
pas, hein.
Que des mecs comme Roglic, Remco, s'ils arrivent à sortir, ah voilà, ça peut faire des écarts à l'arrivée, et je pense que là, il reste 3 étapes. Il n'y a rien non plus d'extraordinairement difficile, même si ça reste Paris-Nice. Ça dépendra des conditions météo, mais peut-être qu'il faut saisir toutes les opportunités. Parce que, enfin, en tout cas, moi, ni Remco, ni Roglic, Roglic encore moins, mais même Remco, il m'a semblé très fort, mais pas à un point où il peut se dire « je peux lâcher tout le monde et partir ». Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai eue. Donc, peut-être pas, voilà, peut-être qu'il faut aller chercher les opportunités dès qu'il y en a maintenant. Donc, écoute, en tout cas, demain, que ce soit sur Tirreno ou Paris-Nice, on devrait avoir deux belles étapes.
Très bien, on nous dit que c'est pas tout à fait une dernière descente de la part de Polo qui a l'air d'être le régional de l'étape, que c'est plutôt du moins 1%. Bon, c'est du faux plat descendant, si t'es un gros rouleur, ça peut le faire. Et puis, on nous dit aussi Tac, 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 Roglic ne roule jamais. C'est pas vrai, Roglic, on l'a déjà vu à l'offensive. Alors c'est vrai que dans les dernières étapes, l'année dernière où il partait avec Remco et qu'il était devant, au général, il n'avait pas d'intérêt à le relayer. Mais là, demain, s'il sort à deux, il aura intérêt d'essayer de regagner du temps lui aussi. Donc il devrait rouler. Et puis on nous donne les bons conseils techniques. Hein, on ne dira pas pour qui, mais en tout cas, évitez d'enlever votre veste dans la côte. Voilà, je pense aussi que celle-là, il faudra pas retirer l'impair dans la colle sur loup parce que faudra le garder. Voilà, ça fera un petit sauna hein, parce que par contre, derrière, ça rigolera pas. Mais en effet, il vaudra mieux éviter. Écoute, Titien, j'ai un peu l'impression qu'on a fait le tour.
Bah ouais, écoute, moi, c'était bien sympa. Et voilà, ça nous met l'eau à la bouche pour que ce soit sur Tirreno ou sur Paris-Nice, il devrait y avoir de l'action dans les dernières étapes.
Alors je sais pas si quelqu'un nous troll ou pas, mais ça y est, on est bien à 1900 ici, hein, donc encore une petite marche.
Incroyable, merci.
Marche gravie, grave de ouf. Faut que vous sachiez à quel point on est content et tout de vous voir toutes et tous nous suivre et nous donner de la force. Commenter, enfin voilà, c'est hyper agréable pour nous de faire tout ça, passer des moments en live avec vous, c'est pas souvent qu'on le fait, mais c'est vrai que maintenant que des courses par étapes comme ça d'une semaine reviennent, peut-être des débriefs de monuments, de grandes courses, tout ça, comme on avait l'occasion de le faire avant, c'est toujours un moment bien sympa. Vous étiez à peu près une cinquantaine ce soir, ce qui est un chiffre assez énorme pour un live sur YouTube, en tout cas pour une chaîne de notre niveau, donc on est méga content de vous voir. De vous voir nous suivre, de vous voir nous encourager, c'est hyper cool. Petit point pub une nouvelle fois, n'oubliez pas tous les articles qu'on met sur Facebook et Instagram, notamment grâce à la rédac, où sont Matt et Simon. Voilà, si vous ne suivez pas encore sur Insta et sur YouTube, n'hésitez pas à le faire, ça permet d'avoir des articles réguliers, notamment des sujets qui sont abordés, qu'on n'aborde pas nous en podcast. Donc voilà. Et puis de toute façon, on se retrouve bientôt. On verra si on fait une vidéo débrief de Paris-Nice, soit dimanche soir, soit début de la semaine prochaine. Et puis après, qu'est-ce qui va arriver, hein ? La Primavera qui va pointer le bout de son nez, là, tranquillou, Titien ?
Ouais, bah ça arrive. Hein. Je sais pas si c'est le samedi ou le dimanche, je ne sais plus.
Bah, c'est le samedi en Italie, généralement.
Et bah voilà, donc c'est quasi dans une semaine, hein, donc ça va vite arriver. Et puis... voilà, ça y est, on les aura face à face, Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel. Donc, écoute, on va déjà profiter de la fin de ce Paris-Nice et de ce Tirreno. Et puis, on reviendra vite vers vous avec une belle preview de Paris-Nice la semaine prochaine. Donc, de toute façon, maintenant, ça fait que s'enchaîner les super courses. Donc, c'est trop cool.
De ouf. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis nombreux. On vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour parler vélo. En attendant, pensez à vous alimenter, car comme vous le savez, la fringale guette. Pensez à faire tourner la chaîne, à mettre un like, tout ça. Bonne soirée, mesdames et messieurs. Merci encore pour votre soutien. Ciao, ciao.
Bisous les copains. À bientôt.